Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h05, on y revient au Mastic. On est là dans le Super Moscato Show. Vous savez qu'on est là tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 18h. Mais ça, vous le savez, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter RMC, à écouter le Super Moscato Show. Nous sommes avec le grand blond, Stifounet.
I'm back, baby. Salut, Vincent. Salut à tous.
T'as décollé. Ouais,
ouais, moins 5 kilos, ouais, écoute, petite maladie.
À combien t'es, 110?
Là, ouais. Je suis à 108.
108, t'es bien, impeccable.
Je suis bien, je suis à 2 kilos de toi, par contre.
Ouais, ouais, par contre, moi, c'est moins bien. Et quand tu jouais, t'étais à combien?
112.
Ah oh, ouais, 112, ouais, ouais, il y a plus de muscles.
Après, je faisais 150, on est un peu couché.
Mais ouais, non, mais c'est ça, quoi. Puis 250 à squat, quoi.
Non, 70.
70, 70 à squat. Denis Charvet,
j'ai perdu 100 grammes. 100 grammes,
j'ai perdu. T'es bien aussi, t'es quand même
100 euros.
C'était un hommage. Que tu fais à Claude Portola, l'ancien pilier droit de
Toulouse. Je suis un poids, mon poids.
Voilà, référence. Ouais, ton poids référence.
Si, si, je te jure, ouais. Moi, je fais du sport.
Quand tu étais joueur, t'avais ce poids-là?
Ouais, non. Ouais, à peu près.
Un peu moins.
Question Adrien moyenne. Gouin. Bonjour, bonjour les amis.
Bonjour. Comment il va?
Question moyenne du jour, Pierre Dorian est directement concerné.
Non.
Denis et Stephen.
Et oui. Moi non.
Bah, un peu aussi. Peu. Si, si. Ouais. Mais moins.
Un peu moins.
Moins avec le cœur.
Moins.
Moins avec le cœur.
Moins.
Demain, grand choc de Ligue 1. Olympique de Marseille, Lens. Question ouais. Moyenne très simple. Chers supporters du Paris Saint-Germain,
oui.
Demain, est-ce que vous supportez l'OM face à Lens, puisque Lens est juste devant vous au classement? Ouais. Est-ce que demain, vous serez content si Marseille s'impose? Est-ce que vous poussez les Marseillais, chers supporters du PSG? Stephen.
Il y a des gens qui vont répondre oui.
Bah, tu veux passer devant Lens ou pas?
Bah, mais de Lens, on leur passera devant un peu plus tard.
Ah, c'est prévu, c'est sûr.
Oui, bah, oui.
Tu seras champion, c'est sûr.
Bah, bien sûr.
D'accord. Tu sais que Lens va s'effondrer un moment
à
plus tard.
Donné, il va lâcher un point quelque part, mais ça sera pas demain, j'espère.
Ça s'appelle un peu avoir le boulard, ça, quand même, Stephen.
Peut-être.
Denis.
Non, moi, je suis très touché par cette équipe lensoise, donc j'y lance.
Très touché par
cette équipe. Très touché par cette équipe marseillaise.
Non, non, mais c'est vrai, c'est pas par rapport à Marseille. J'aimerais que Lens s'impose à l'OM. Voilà.
Pierre Dorian.
Pierre, t'as mis le maillot aux couleurs de
l'OM. Ouais, je suis aux couleurs de l'OM aujourd'hui, bleu ciel. Bah quoi?
Non, vas-y, Pierrot, alors vas-y, dis-nous.
Tu sais que c'est vrai que les Lyonnais portent jamais de vert.
Non.
Et nous, il n'y a pas ça dans le.
Il n'y a pas ça dans le truc.
Non, là, je suis en bleu ciel et bleu ciel tout court, mais demain, je serai rouge et.
Tu seras sans rien. Ah ouais, dans le sérieux?
C'est vrai.
Bien sûr.
T'es confiant.
Ah non,
je fais une précision, si on était à 4 journées de la fin, je serais à fond pour l'OM.
Ah oui, c'est vrai.
Ah,
tu
seras fond sur l'OM, genre, t'aurais l'accent et tout, tu te
laisserais sur l'OM.
Oui,
je serais au Mambier. On peut pas penser que le PSG sera pas champion.
Toi aussi,
c'est pas ça, c'est qu'il reste du temps.
Ah, oui,
on va jouer Lens, on va jouer Marseille.
Ouais.
Ouais. Faut le faire demain. Faut le faire.
Allez les minots. Allez les minots.
Ah ouais.
Toi, t'es neutre là.
Ah non, je
suis plutôt pour Marseille ou pour Lens demain d'ailleurs.
Marseille.
T'es pour Marseille.
Ouais, je suis pour Marseille.
Pourquoi? Pour quelle raison?
Parce que je joue davantage à Marseille.
Un peu de famille supporter de l'OM.
Non, non,
jamais joué à Lens.
J'ai quand même Lens. J'y vais jamais. J'aime beaucoup Lens, ce qu'ils font et tout ça. Quand même, moi, je vais à Marseille. À Marseille, je passe 15 jours à Marseille.
Jamais les pieds à Lens. Les pieds au moins à Lens.
Jamais.
C'est vrai.
En voiture, t'es passé.
Mais jamais.
T'as jamais
en avion. Quand je vais à Londres, en avion, j'avais mon avion privé.
Voilà.
La City. Non, mais je vais jamais.
Tu peux y aller.
Non, mais j'étais à Lille.
Oui, t'as
pas Lens. Les occasions d'aller à Lens.
T'en as une belle. T'as le foot et t'as le Louvre. T'as le Louvre, le musée des Louvres.
Ah oui. À Lens,
c'est pas mal.
C'est pas mal. Ah oui.
Je n'y
ai jamais été. Je n'en doute pas. Mais si bien, t'as qu'à y vivre. Voilà.
Non, juste y aller.
Déjà, t'as une tête de lanceau blanc comme ça, un peu rouge de la tête. Ça sentait une tête de lanceau.
C'est pas faux. Vous répondez,
là, Pierrot,
supporter parisien, vous répondez que demain, à 21h05, au coup d'envoi de ce match, à 82%, vous supporterez le Racing Club de Lens.
Combien de pourcents?
82%.
Ça me paraît logique.
Ouais.
Ça me paraît logique.
Il y a peut-être des superstitieux, les inquiets.
Moi, c'est pour Patrice, c'est nul par ailleurs, tout ça.
Oui, pour Eric aussi.
Pour Eric, bien sûr, pour Eric, pour Patrice. Ouais, pour toute l'intelligentsia, là, dans ça, Marseillaise.
Alors, les groupes de lecture.
Sur ce match, nous avons deux débats dure. Parce que c'est le choc de la Ligue 1. Lens est-il dans la position idéale? Vincent règle le problème à 16h.
Ouais.
Attention, les Marseillais, ils ont montré une capacité de rebond cette saison.
Hein. Oui.
Et puis, à 17h, les débats qu'on adore. Florian Thauvin est-il une légende de l'OM?
Ah non, mais faut arrêter, ça quand même.
Comment?
Mais Thauvin, c'est une légende de quoi?
Eh ben, 8 saisons.
Bah oui, mais tu peux y rester 15 ans.
250 matchs.
Je connais des mecs, quand ils jouent avec moi pendant 10 ans, ils pas, bah personne ne se souvient de leur nom, ils parlaient déjà.
Le problème, Biro, c'est qu'il a rien à dire.
Comme qui parle
ça, exactement. Tauvin, c'est un beau joueur qui a été à l'OM, mais c'est pas une légende.
Est-ce que tu peux être une légende sans avoir gagné?
Dans plein de clubs.
Non, puis même si t'as gagné, des fois, t'es pas une légende. T'as plein de mecs de 90, c'est pas des légendes.
Si t'as gagné, des fois, t'es pas une légende.
Bien sûr.
Oui, je sais pas.
Alors, ça veut dire que les 11 mecs qui gagnent dans chaque club tous les ans, c'est tous des légendes. Ben non, les légendes, il y a un mec, deux mecs.
Si on suit Denis, Serge Blanco n'a rien gagné avec le Biarritz Olympique, c'est pas une légende du BO.
Sur ses choix, seraient discutés. Journal moyen, première édition, 15h45.
Estelle Denis a craqué. Elle a eu un invité hier qui elle a craqué en direct. Fou rire, ça arrive, Vincent, parce que monsieur faisait trop long. Trop long, elle n'arrivait pas à l'arrêter. Elle arrivait à la fin, elle a craqué. Et puis, alors là, je vais vous parler d'un défi qui a lieu demain sur Netflix, en direct, qui fait frissonner le monde entier. Un défi d'escalade. Vous allez me dire si ce genre de choses, ça vous attire ou pas. Rendez-vous 15h45. Terrible. Je vais tout vous dire. C'est un dilemme. On regarde ou on ne regarde pas. Rendez-vous 15h45.
J'ai du mal à le regarder à la télé, moi. Je regarde le truc, là. J'ai vu l'affiche à la télé sur Netflix. Je me suis dit, bon,
enfin, qu'ils tombent, ça va vraiment bien.
Ouais, ils ont un parachute, hein.
Rien du tout.
Rien.
Je vous dis tout à 15h45. Un défi de dingue.
Et puis, si vous voulez assister à un événement sportif en direct à la radio qui ne se passe que sur RMC, rendez-vous à 17h45, puisqu'il y aura un grand chelem en jeu dans le Kikadi. Oui, Stephen,
Steve.
J'ai remporté assez facilement, il faut le dire, les 4 manches de la semaine.
Tout le monde n'a pas passé sa semaine aux toilettes.
A gagné un PC portable Altic 16 pouces Kikadi par SMS au 7-32-16. Tout de suite, alerte marche avant enclenchée pour la section paloise.
RMC, le Super Moscato Show.
C'est la rentrée pour les verts et blancs. 42 joueurs ont retrouvé le centre d'entraînement Macron.
Le rugby, ça part du cœur, quoi. C'est le volonté de devenir un homme.
Pousser le cardio, chercher ses limites.
Ni l'un, ni l'un. L'autre, oui, mais pas l'un.
Les physiques sont éprouvées.
C'est pour bon.
Les joueurs prêts à se challenger.
Finalement, on a loupé tuer le match, enfin, le coach. Ouais.
C'est avant tout des physiques rapides et solides que les préparateurs disent.
On m'a dit que je ressemblais à des gens, mais l'acteur de Pretty Woman attend.
Le dernier film de Clint Eastwood.
Après une 8e place en top 14 la saison dernière, la section apprend et va de l'avant.
Eh ouais, il s'agit bref.
Breaking news.
Ça, c'était, t'étais pas bien, ce moment-là, je me rappelle.
Le pire,
c'est Bayrou. Tu te rappelles de Richard Gere, la tête planée? Je sais pas s'il était pas plus beau que Brad Pitt. Richard Gere, c'était magnifique, un charme de fou, le mec des années 80. Pretty Woman.
American Gigolo.
Mais, l'autre, il se dit, avec sa tête de gifflu. Parce que là, lui, il a mis le bide, lui, la nombrale, la nombril qui s'écarte la colonne vertébrale, lui, il l'a mis. On dirait l'archer, de profil, on dirait l'archer. Ah non, mais c'est juste. Gérard, tu veux du beurre dans mon homard.
Alors, donc, samedi 21h, donc c'est Stade Toulousain Pau, c'est le premier contre le deuxième. Bonne nouvelle d'abord, la section joue le jeu, puisque Piccheroni aligne sa meilleure équipe. Ouais. Est-ce que ça suffira pour autant? Toulouse, je vous rappelle, on a passé 77 à Sale la semaine dernière. Hein.
Ouais. Qui n'avait pas sa meilleure équipe.
Pau va-t-il tenir le choc 32-16? Julien Landry, bonjour.
Monsieur Landry,
à Dichat.
Quel est l'enjeu pour la section sur ce match?
Ça va aller des ports aussi, là.
Prétentieux de dire gagner, forcément, mais au moins créer un bras de fer, faire douter Toulouse à domicile, où les champions de France ont pris 34 points sur 35 possibles et marquent en moyenne 49 points. Un gros défi donc pour les Palois qui se déplacent, tu l'as dit, avec la grosse équipe. Les 6 internationaux seront là, dont les 5 trois quarts, mieux au passage que les 3 Toulousains, sans oublier le retour d'Emilien Gailleton qui revient de blessure et qui aurait pu faire partie du contingent bleu et faire de la section le plus gros pourvoyeur des lignes arrière françaises. Avec une spécificité, Vincent, sur les 7 des trois quarts, 6 ont été formés dans le Béarn. C'est aussi une des forces de ce club cette année, arriver à faire jouer les jeunes. Demain soir, on sera d'ailleurs assez proche de l'équipe qui a réussi à aller battre Bordeaux en novembre, avec les renforts donc de Gaëton, d'Atis Ogbe. Et devant, c'est aussi la meilleure équipe possible que Piqueroni aligne, avec Montoya, Issa, Whitlock, Maximin. Une équipe armée pour livrer un gros bras de fer donc, et nous offrir enfin peut-être cette saison un choc qui tiendra ses promesses.
Vincent, est-ce que ça va tenir? Est-ce que Pau va tenir le choc?
Pour moi, pour Pau, c'était très important d'avoir le premier test. C'était le premier test de savoir, de rivaliser, d'avoir une base de données, de savoir si tu peux, si tu qualifies en demi-finale, aller en finale. Et de pouvoir taper Toulouse. Pour moi, c'est, tu bats Toulouse à l'extérieur.
T'es très fort. Tu te sens fort.
C'est pas pareil. Mentalement, t'as fait un pas de géant. C'est-à-dire que t'es plus dans la même catégorie. Tu te dis que c'est jouable. Tu l'as fait à l'extérieur chez eux. C'est jouable. Je comprends pourquoi l'entraîneur Piqueroni, il met l'équipe type. Parce qu'il veut, dès maintenant, relancer ces mecs avec un aspect psychologique. C'est-à-dire de les mettre dans une condition de finale. On va à l'extérieur contre Toulouse. Si on gagne, les gars, ça veut dire qu'on peut être champion. Point. Il est là, le truc. Pourquoi tu crois qu'il met l'équipe type? Il pourrait se dire, comme tout le monde, moi, bon, j'ai mis une équipe un peu moyenne, je fais tourner, j'ai besoin. Lui aussi, il a des mecs fatigués, lui aussi, il a des mecs sélectionnés. Il pourrait se dire, j'ai mis une équipe hybride. Non, non, le test, il est là, les gars. Et là, tu imagines, ils font un résultat. À la sortie, tu y crois. Ça veut dire que là, tous les matchs, tu vas te battre comme un fou pour finir second, ou pourquoi pas premier. Ça, c'est, tu vois, pour être qualifié, parce que tu te dis, au bout, il y a une finale, on l'a fait, on peut gagner Toulouse. Donc, je comprends qu'il va y avoir un gros match. Celui-là, il est intéressant.
Tu les sens capables de ne pas perdre, d'aller gagner, de faire un truc là-bas?
Ouais, non, je les sens costauds, moi. Je les sens costauds. Tu sais, quand t'as cette espèce de feu, tu vois, eux, ils ont le feu dans les veines. Actuellement, ils peuvent démonter tout le monde. Ils se sentent forts. Et puis là, ils vont être transcendés. Ils passent au révélateur. C'est une base de données pour la fin, pour le printemps.
Un test. Denis, est-ce que Pau va tenir le choc?
Alors moi, je vais pas faire des amis à Pau, mais j'ai du mal à penser que Pau va rivaliser face aux grandes Toulouse.
Il y aura match, tu penses, quand même, ou pas?
Il y aura match, mais après, il faut tenir. Le problème à Toulouse, c'est que tu vas résister, tu résistes, mais il faut tenir. La vérité, tu auras tous les matchs de Toulouse à domicile, c'est les mêmes. Tu te dis, l'équipe adverse, elle peut le faire, elle tient, ils peuvent gagner, et puis à la 55e, 60, ça se délite, le jeu, t'as la pression.
Ça explose.
Ça explose parce que tu as tellement donné dans défense, dans tous les compartiments du jeu, qu'à un moment donné, tu tiens plus. Et c'est souvent le cas à Toulouse, quand tu es la grande équipe de Toulouse, évidemment, quand ils jouent à domicile, je dis pas que c'est à l'extérieur.
Ils vont mettre une belle équipe.
Là, ils vont mettre la grosse équipe, évidemment. Je vois pas comment ils vont recevoir Pau. Et puis, ils ont pas le choix, en plus. Ils sont obligés de rivaliser, quand même. Donc, j'ai du mal à penser. Après, Pau, on connaît pas les limites de cette équipe, en fait.
C'est pour ça qu'on va les voir.
Il me tarde de voir ce match parce que c'est bon dans tous les compartiments, dans toutes les lignes, c'est bon, devant, c'est bon. À part Vincent, tu me dis que derrière devant, ils avancent pas mêlés, mais.
Si, ça va mieux quand même,
De temps en temps, on attaque pour le bip.
L'argent à Montoya, le talonneur, c'est pas mal.
Ça va mieux, la Claya, tout ça.
Oui, oui, c'est costaud,
maintenant, ils vont pas exploser, mais ça, c'est sûr. Mais je le dis, collectivement, c'est ça. Est-ce qu'ils vont tenir? C'est la référence, tu l'as dit, c'est le match qui peut le révéler, c'est le révélateur.
La comparaison, elle est là. C'est avec Toulouse, elle se fait maintenant.
Maintenant, donc voilà. On va voir, mais j'ai du mal. Voilà, la vérité, c'est que
j'ai du mal à y croire. Oui. Très bien.
Mais on est tous contents déjà de voir un choc qui va se jouer avec les meilleurs joueurs, avec les internationaux qui vont partir ensuite à Marcoussis. Ça fait du bien déjà pour le top 14 de voir deux équipes s'affronter au complet. Maintenant, les Palois, Vincent l'a dit. C'est le test grandeur nature, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on vaut? On les a battus chez nous, mais c'était le petit Toulouse, parce qu'il y avait pas mal de mecs qui étaient voilà. Absents. Qu'est-ce qu'on vaut vraiment? Qu'est-ce que cette deuxième place dans le top 14, elle vaut vraiment?
On va le voir
à Ernest Vallon. C'est une équipe qui n'a pas perdu de la saison chez eux. On va voir ce qu'on vaut vraiment. Et puis après, les internationaux, les nouveaux internationaux palois vont aussi vouloir se tester contre ceux qui ont beaucoup d'expérience, en disant est-ce qu'on est capable de se
rivaliser. Il joue sa place de titulaire en
deux. Il va vouloir dire, moi, est-ce que je suis capable de m'imposer contre la meilleure équipe? Écoute, à voir. Après, les Toulousains, il y a quand même toujours ce côté. Alors, ils sont forts, ils sont très forts. C'est quand même côté d'ego en disant, OK, vous nous avez attrapés là-bas. Ah, il y a une petite sirène qui dit, attention, l'orgueil. La section paloise, ils sont pas loin de Toulouse. Ah, ouais, bah, on va vous montrer que finalement, vous êtes très loin.
Là où tu as raison, c'est Toulouse, ils aiment les challenges.
Et oui,
ils ont un challenge.
Ils écoutent votre quelque chose.
Jusqu'au jour où tu te fais cloquer sur les challenges.
Oui, parce que mine de rien, Toulouse, mine de rien,
et ça, c'est. L'air de rien, Vincent, il les a cloqués.
Mine de rien, dites mine de rien, au bout d'un moment, de le dire, tu t'assois, tu sais comment c'est. Des fois, tu te rassures en disant, ah non, non, mais on va voir, tu sais, on va voir, nous, on est le
classement.
Et là, crac! Parce qu'à un moment donné, tu tombes. C'est la vie qui est comme ça. À un moment donné, tu tombes. Attention que ce soit pas sur le pour un stage toulousain. Et je rappelle qu'au mois de mars, je serai bien sûr.
Oui!
Et allez, Toulouse!
Pierrot, Vincent, depuis qu'on a repris la nouvelle saison du Moscato Show, 15 débats sur Pau. Tu crois que Gomola, il le sait pas, ça?
Il est jaloux!
Alors qu'avant, il n'y avait pas un mot. Il n'y avait pas un mot sur cette équipe-là.
14 avec le bip-bip.
14 avec le bip-bip.
Et Pau, quand on fait bip-bip.
Mais il ne faudrait pas que demain, à la première mêlée, Marchand, il leur fasse bip-bip.
Pierrot, un ami du Moscato Show que vous connaissez bien, qui me dit tarif 40 à RZ, ça va l'en
pas. Oui, non, on le connaît.
Olivier Roman.
C'est la roue.
Alors attends, une question par contre, si ça se passe très mal et que Toulouse en met 50, est-ce que ça tue le championnat?
C'est sûr qu'après ça, les phases finales, c'est toujours les phases finales. Il y aura, mais c'est après les 50, eux ils sont
bons. T'as raison, parce que on est ravis, mais Piccheroni, il prend une décision que prennent peu de managers en ce moment. C'est-à-dire que certains managers te disent, moi je préfère éviter de les prendre à balles réelles avant les phases finales, parce qu'on peut se plomber la suite. Si on se rend compte qu'on en prend 50 alors qu'on était là pour prouver que avec notre équipe type qu'on peut rivaliser.
Pas grave, tu prends demi-finale, ouais, demi-finale, c'est historique.
Mais ils sont dans une telle dynamique positive. Moi, que là, si t'en prends 40 demain, tu peux te plomber la semaine.
Même s'ils en prennent 40.
Mais tu préfères ne pas les jouer et en prendre 60 en finale en disant, putain, c'est ça Toulouse.
Il y a certains managers qui préfèrent.
Exactement.
Non, mais j'ai du mal à ce qu'ils gagnent, mais que d'en prendre 40, j'ai du mal quand même.
30, c'est-à-dire.
Je vais te dire, ils ne prendront jamais 40 points.
Même si la roue me le dit.
Tu connais l'objectivité de la roue, il y a tout ce qu'ils jouent. De Toulouse.
Le mec pouvait pas
faire
Toulouse depuis
qu'Alexandrier pouvait pas souffrir Toulouse de sa vie, ça jamais pu que leur cracher à la gueule. Et maintenant Toulouse c'est les plus forts dans la Rome. Mais je te dis, le stade toulousain jouait les 49ers de San Francisco. Il dirait, je vais te dire, si y a mon fils qui joue, ils ont une chance sur le stade toulousain.
Ah, une légende de la section paloise nous appelle au 32-16. Nous accueillons Pierre à Trieb Cap de Ville.
Trieb, comment il va, Pierre? Comment ça va?
Salut. Et vous-même?
Eh bien écoute, on s'accroche. On vieillit, on est des besogneux, on s'accroche. Comme des ouvriers.
Comme moi, la mairie, jusqu'à 65 ans, je vais.
Comment tu vas?
Je vais très bien, je vais de mieux en mieux.
Bon.
Tu te régales?
Ah, quoi, c'est bon, là, non?
Oui, alors je me rappelle, je sais plus, je perds la mémoire. J'avais eu le Moscato Show au téléphone il y a à peu près deux ou trois mois. Mmh. J'avais parlé d'une éventuelle qualification, on m'avait rionné.
Ouais. J'avais parlé
d'un troisième ou quatrième place. Ouais. On m'avait presque craché à la gueule.
Non, Vincent, surtout, je me souviens.
Alors, écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. La côte est belle.
Ouais.
Je vais jouer la victoire de la section paloise au Stade Toulousain.
Très bien.
La combien?
J'y vais tout de suite.
Alors, la côte, je sais pas combien elle est, mais je vais pas mettre.
Je vais te le dire.
C'est 50, non?
Non.
Je vais vous expliquer une chose.
Allez,
explique-nous. Alors évidemment, le Grand Toulouse est supérieur à la section paloise. Évidemment, tout le monde le sait. Le truc, c'est que moi je me dis, quand on regarde l'équipe demain, que la ligne à section est Toulouse, dites-moi derrière, à part évidemment Dupont, dites-moi derrière qui est meilleur à Toulouse.
Quand bah, t'as quand même Gourgue.
Ramos est meilleur qu'à Toulouse
quand même.
Ramos est encore au-dessus de Toulouse quand même.
Non mais Ramos, ça t'est sauvé, c'est pas le même.
Mais c'est pas le même poste.
Il joue arrière ce
match. Oui, mais c'est pas le même style.
Il joue arrière, mais c'est pas du tout le même jeu. Mais je veux dire, la paire de Sandra. Moi je suis désolé. Choco Barres. Et comment il s'appelle?
Gourgue, c'est des pipes.
Gourgue,
Choco Barres, t'as raison. Choco Barres et Gourgue, c'est deux points par vélo.
Là, t'exagères.
Gaëtan
Brovary,
ça tient la route.
Ah oui, Gaëtan Brovary, c'est pas mal. Il est bon, Brovary, ou il est moyen courrier?
Il est très bon, il est de Tarbes. Et les deux derniers,
Grand Didier.
Franchement,
et devant, par contre, devant, ça recule un peu, non?
Et Jean-Louis à droite, il joue là?
Non, Jean-Louis Jordana.
Jordana, il joue après.
Non, mais je vous dis une chose. Et devant, ça va se régler. Vincent à la fourchette et puis terminé.
Ah non, ça c'est l'ancienne ça.
Dis-lui la cote, celle-là.
Alors la cote.
Ouais, vous allez gagner.
Alors écoutez-moi, c'est ultra déséquilibré puisque le Stade Toulousain est à 1,04, la section paloise à 7,50.
Premier contre deuxième, 1,04.
T'imagines ? Merci beaucoup Pierre. Bon, pas 10 saisons après Pierre Trieste 4 de Ville.
Oui. Roland Courbis aurait dit. Entre ce que je pense et ce que j'espère, des fois, c'est pas pareil.
C'est tout à fait.
C'est vrai. Citation de Roland. Pierre, j'ai une question à te poser, Pierre. Quand Bayrou, il a dit qu'il ressemblait à Richard Gere, qu'est-ce que ça passe, toi? Toi qui le connais.
Alors, François Bayrou, en plus d'être un grand homme politique, c'est mon patron.
Ah oui.
Merci, Pierre.
On t'embrasse, Pierre. Ciao.
Dans un instant, Vincent, on accueille une méga star, Souria Bonaly.
Ah ouais.
Souria Bonaly, c'est le patinage des années 90. Ah
ouais. Magnifique.
C'est une révolution dans le patinage artistique, Souria. Elle sera là. Elle raconte sa vie dans une bande dessinée. A tout de suite.
15h25, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient au Mastic, on est dans le Super Moscato Show. Il est 15h29 avec Denis Charvet, Steve Founébré, Adrien Aiguin. Mon petit Pierrot, dans demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Dans une demi-heure, le choc de la Ligue 1, samedi soir, Marseille, Lens à vivre sur RMC. Lens est-il dans une position idéale? Est-ce que l'exploit est en vue pour les Lensois qui croient, hein, dur comme fer?
Bah oui,
mais d'abord, mieux. Vincent, on parle patinage artistique sur RMC.
Et là, on en connaît un rayon.
RMC,
le cri du cœur du Super Moscato Show.
Pas avec une débutante.
Ah, voilà. Pas sûr qu'on soit des experts en patinage. En revanche, on reçoit une grande star qui, dans les années 90, faisait la une des journaux télévisés, notamment Souria Bonaly. Bonjour Souria.
Bonjour.
5 fois championne d'Europe, 3 fois vice-championne du monde et un parcours atypique que tu racontes dans une bande dessinée, Le Feu sur la glace, Souria Bonaly. 10 ans de haut niveau et une histoire totalement unique. La BD commence par les JO d'hiver de 98, c'est-à-dire par la fin en fait, hein, la fin de ta carrière. Et ce fameux salto arrière qu'on va réécouter.
Oh! I think she's done it because she wants to, because it's not allowed, so good on her. This is her last event and she's going to have fun.
Elle a fait ce qu'elle voulait faire, puisque c'est interdit, c'est sa dernière compète et elle se fait plaisir. Ce sont les commentaires, je ne sais pas si c'était ton état d'esprit. Pourquoi as-tu fait cette figure à Nagano?
Bien déjà, cette musique de Vivaldi me poursuit, hein, à chaque fois que je l'entends, donc c'est le salto et Vivaldi. En fait, c'était ma dernière compétition en tant qu'amateur, et je savais que c'était mes derniers Jeux Olympiques, j'en avais déjà fait 3, donc je pense que c'était déjà presque un record. Et malheureusement, j'avais des problèmes de santé, j'étais pas au top de ma forme, je me suis dit c'est la dernière des dernières sur le champ international. Je me suis dit il faut absolument que je finisse en beauté d'une façon ou d'une autre. Malheureusement, c'était pas en faisant une performance avec des triples dans tous les sens comme normalement ça devait le faire. Et là, je me suis dit, je crois que j'ai plus beaucoup de secondes à tenir ce programme, donc je crois que c'est maintenant si je veux faire quelque chose. Et j'avais envie un jour de dire de faire le salto, mais je savais que c'était interdit.
Ça a été choisi, tu l'as décidé sur le moment?
Ah oui, absolument, parce que non, parce que j'étais incapable de faire un triple saut parce que j'avais mal, je m'étais fait un claquage, et là, je me suis dit bon, là. Si je pars un trip, je vais tomber, ou je vais pas le faire du tout. Et là, je me suis dit, je suis la première, je serai la dernière à faire le salto sur la glace aux Jeux Olympiques. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, et garder cette image.
Alors une fois de plus, tu es un peu saqué par les juges, puisque c'est interdit, ce qui est normal.
Oui,
mais tu finis 10e, ovationné par le public. Est-ce que finalement, c'est pas ça que tu cherchais?
C'est-à-dire finir avec
l'adoubement du public, du patinage artistique.
C'était juste euphorique. Dans la patinoire de Nagano, on entendait le public qui était là à applaudir et à m'acclamer, donc c'était vraiment beau et féerique comme sensation. Après, les juges, bon, eux, ils avaient la tête sur leur fiche, sur leur note, en disant, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Alors, on la met dernière ou juste on met moins de un moins bon score? Et en fait, j'étais même surprise que je ne sois pas dans les choux-fleurs ou même déclaré forfait exclu, carrément, en disant, bon, allez, on met un 0-0-0 et puis ça y est, on a fini.
C'était plutôt gentil, finalement.
Voilà, donc, ouais, en fait, c'était un soulagement, en fait.
Alors, ce salto final, il peut s'expliquer par le déroulé de toute ta carrière, puisque tu as été une patineuse très différente des autres. Tu débarques avec un style nouveau, très athlétique, très gymnique, alors qu'on recherche plutôt de la grâce à l'époque. Est-ce que tu estimes que tu étais jugée avant de patiner? Que toi, on savait que bon, tu n'allais pas faire comme les autres et que tu ne serais pas tout en haut du podium.
En fait, ce n'était pas un choix. Je suis arrivée comme ça, c'était ma personnalité. Je suis arrivée avec cette image. Après, je pense que je suis un peu arrivée trop tôt dans le monde du patinage, peut-être 30 ans en avance. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais été acceptée. On me disait, bon, ben voilà, elle fait de la gymnastique, ça se voit, mais à la fois, elle est athlétique. Et point barre. Maintenant, dans le temps, on me disait, ah non, ça ne va pas. Beaucoup de critiques. Il fallait être jolie, classique, avoir une image sur la glace.
Sur la danse, davantage que sur la gym, sur l'athlétisme.
Oui, et puis en plus, je suis arrivée au début de ma carrière avec des musiques de films. Je pensais que c'était sympa de faire la guerrière avec Conan le Barbare, des musiques.
C'était nouveau, ça.
Oui, des musiques de films. Je trouvais que c'était chouette.
Christian Lacroix qui fait.
C'était original, mais je trouvais que c'était bien, pas d'imposer, mais c'était moi. J'adorais la musique. Je préférais tant qu'à faire qu'avoir un Rachmaninov. Mais après, j'ai vraiment compris qu'en fait, si on voulait faire du patinage de haut niveau, à ce moment-là, il fallait avoir des musiques super très classiques. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai fini par Vivaldi, les quatre saisons. Donc, c'est vraiment les deux opposés.
Est-ce que tu en as souffert justement de ces critiques quand tu es arrivé dans le haut niveau?
Oui et non. Oui, parce que c'est pas agréable d'entendre ces rumeurs. Enfin, c'est vrai, quoi, malheureusement. Mais après, j'avais de la chance, car ma famille et mes profs essaient toujours de me protéger, de dire « n'écoute pas ça » ou « c'est pas tes affaires, toi, t'es là pour t'entraîner et faire tes sauts et faire des programmes qui sont presque parfaits, donc occupe-toi de tes entraînements et puis nous, on s'occupera du reste » ou bloquer les journalistes qui ont des mauvais mots.
Souria Bonali, le feu sur la glace, c'est aux éditions Marabule. Vincent.
Si on me cite quelqu'un qui fait du patin à glace, pour moi, c'est toi. Tu nous as fait découvrir, on est joueurs de rugby, certains ont fait de la boxe, du football, du basket. Je veux dire, on n'était pas très branchés, surtout dans les années 90, fin des années 80, début des années 90. On ne connaissait pas le patin à glace. Et même encore, la première image, si je regarde une compétition, à un moment donné, je vais te voir.
Candeloro
derrière. Toi. Et c'est comme ça, tu as marqué quand même, et tu as fait venir à ce sport énormément de jeunes qui ne connaissaient pas du tout ce genre de sport, quoi.
C'est vrai qu'on a eu de la chance. C'était un peu, on arrivait au bon moment. C'était les années dorées, comme on dit. Et le patinage était vraiment réputé. Et les gens venaient nous voir entre Katarina Witt qui a commencé et puis après nous qui nous sommes arrivés. Philippe avait un style de patinage qui était chouette. Et qui faisait...
Si vous avez le même âge avec Philippe.
Non, il est un peu plus âgé que moi. Deux ans. Oui.
Donc, ça se voit.
Soria Bonali, le feu sur la glace.
Comment tu as géré la notoriété à l'époque? Donc pour les plus jeunes qui nous écoutent, les années 90, tout le monde te connaissait, tous les Français te connaissaient. Tu as un caractère plutôt discret.
Comment tu as géré réservée. Tout ça? C'était un peu dur, mais heureusement j'étais bien entourée. Mon papa gérait tout. C'est vrai que c'était un peu dur. Bon, il y a pendant quelques années, même voire 5 ans, je sortais jamais dans les magasins. C'était mon papa qui, je lui donnais une petite liste à faire et puis il allait faire les courses, que ça soit pour aller faire les courses tout simplement ou pour aller acheter des vêtements.
Il avait ma taille et tout ça.
Ah oui, tu te cachais un petit peu.
Ah oui, carrément, parce que c'était dur. C'était la.
Tout non, suite. Mais c'était la plus grande star.
Et surtout, elle a gagné. Non, mais parce que t'as gagné surtout.
Oui.
Les 5 titres européens.
Patineuse
c'est vrai que j'étais connue rapidement, mais à la fois les gens étaient à la fois presque possessifs parce qu'ils disaient oh là là, je veux en avoir un autographe maintenant. Mais si c'était minuit dans la rue que je le faisais pas, ils disaient non, vous êtes plus sympa à la télé qu'en vrai. Alors je dis non, je veux pas faire ça parce que j'avais une mauvaise réputation. Je continue et 2h du matin, je suis toujours en train de signer.
Tu disais peut-être que j'étais 30 ans trop tôt, mais toi qui étais très discret, tu te rends compte aujourd'hui, la vie des sportifs avec les réseaux sociaux, tous les médias, ça aurait été invivable pour toi.
Ça aurait adapté, non?
Oui,
ça l'était déjà. parce que là, il n'y avait selfies, que 3 chaînes de télévision. Et quand tu oui. passais à la télé, il y avait 15 millions de gens qui regardaient.
Voilà, oui, oui, oui.
Il y avait 3 chaînes. Hein, donc, c'était alors, un peu la même chose pour toi. Quoi, ouais.
Souria, donc, au niveau européen, tu as dominé pendant toute ta carrière. Niveau mondial et olympique, il s'est toujours passé quelque chose qui t'a empêché d'aller tout en haut. Il y a une année peut-être où c'est une vraie injustice. C'est en 1994, ouais. à Chiba, au Japon. Tu sors le programme parfait et tu termines deuxième derrière une japonaise, Yuka Sato. On va réécouter là encore ce moment historique du sport français des années 90, la remise des médailles.
Coup de théâtre. Au pied du podium, Souria refuse de monter sur la deuxième marche. L'officiel chargé de lui remettre la médaille d'argent est décontenancé. Les bravos de la foule se transforment en sifflets. Finalement, Souria fait contre mauvaise fortune bon cœur et accepte. L'incident est clos, ou presque. L'émotion, sans doute aussi la déception, l'emportent à nouveau. Souria ne gardera que 12 secondes au cou sa médaille d'argent.
Tu devais être championne olympique ce jour-là, à Chiba en 94.
Championne du monde.
Championne du monde,
c'est pas grave. Ben oui, même l'année suivante, je me suis fait encore avoir, j'ai eu encore la deuxième place, donc je crois que je collectionne les deuxièmes places.
Est-ce que c'est à cause de ta réputation ? Est-ce que c'était joué d'avance encore une fois ? Est-ce que tu as eu ce sentiment du moins ?
Je sais pas, parce qu'en fait, quand on va à une compétition, on se dit, bon, première chose, je dois faire tout ce que je dois faire dans mon programme. Je l'ai fait, j'ai rendu mon compte, absolument. Je n'avais pas de regrets. Malheureusement, la japonaise était quand même une bonne patineuse de haut niveau. Son papa était champion du monde, avait déjà une bonne réputation. Après, quand on normalement on fait la compétition de haut niveau et qu'on patine dans un pays, souvent c'est la personne du pays qui gagne. Donc, bien que quand on va en France, on fait une compétition, c'est des étrangers. Ouais. Je n'ai jamais un Français, mais bon.
Nous, on dit peut-être plus fair play, mais moins chaud.
Nous, on est cool, on laisse passer
mais
les autres.
Le geste de la médaille, là encore, c'est improvisé. Tu te souviens pourquoi tu as fait ça ?
Un petit coup de nerf et pour dire ras-le-bol, c'est bon. Ouais. Donc, j'ai mis le point sur la table en disant là, c'est bon, j'en ai ras-le-bol.
C'est très aléatoire.
C'est subjectif.
Parce que les notes artistiques, comme ça, les juges. En boxe, les gros problèmes, c'était ça aussi. C'est que d'un juge à l'autre, tu avais des différences qui fait que tu fais un peu gagner qui tu veux. Quoi.
Oui, et puis en plus, si ça avait été un homme, fait par un homme, ça aurait été plus accepté. Ça arrive souvent. Un coup de gueule, un coup de poing, et puis voilà, on arrête là. Une femme, oh là là, choquée tout de suite. Et puis, en plus, c'est pas comme l'athlétisme ou la natation, où c'est un sport de chrono. Là, c'est subjectif. On sait, oui, non, ça me plaît moyen. Enfin, j'aime bien sa robe, mais j'aime pas son prof. Donc voilà, et puis c'est une Française, allez hop.
J'aime pas la musique aussi.
Il y a dans l'équipe de France.
J'ai eu les mêmes soucis à danser avec les stars. J'ai fait danser avec les stars. J'ai eu les mêmes soucis. Alors que j'étais merveilleux au niveau de la danse.
Dans l'équipe de France qui va participer au JO de.
C'était l'humour, j'étais nul.
De Milan Cortina, il y a Adam Seoimfa. Qui fait le salto lui aussi, qui l'a fait plusieurs fois en compétition alors que c'était interdit, qui a finalement réussi à le faire autoriser par la Fédération Internationale. Est-ce que c'est un peu ton héritage ? Est-ce que tu en as discuté avec lui ?
Non, on ne se parle jamais. Je ne lui ai jamais vraiment parlé. Après, la nouvelle génération, les jeunes, ils croient que c'est des champions. Nous, les vieux, on est des vieux. je ne sais pas qui c'est. Voilà. Donc, lui, j'ai l'impression qu'il a un peu créé. Je l'ai vu grandir. J'ai déjà fait des spectacles quand j'étais gamine. Je me rappelle aller à Toulouse faire des spectacles dans le club de Toulouse chaque année. Donc, je suis sûre qu'il m'a vu grandir. Mais bon, c'est vrai que je n'ai pas souvent entendu dire. C'est vrai, j'ai vu Souria le faire et que ça m'a donné envie. Je me suis dit, un jour, je vais le faire. Mais bon, après, peut-être qu'il a oublié cette phrase dans les et en plus, de toute manière, le vrai champion du monde, j'espère le futur champion olympique, lui commence à le faire et atterrir sur un pied.
Alors,
champion américain.
Si vous voulez vous régaler, dis-nous en un mot. Il y a en ce moment un vrai phénomène sur la glace qui s'appelle Ilya Malinin,
qui est
américain. Il fait des choses que les autres font pas.
Et il est exceptionnel. Et j'espère que ça va durer. Je sais pas combien de temps il peut tenir à ce niveau parce qu'il fait le quadruple Excel, c'est quelque chose d'incroyable. 4 tours et demi, c'est énorme. Après, il saute comme un diable. Oh non, mais il est exceptionnel. Déjà, il est très mince. Et puis, il a une forme. Il est même pas fatigué quand il finit son programme de 4 minutes avec 7 quadruples. Et je pense qu'il n'avait aucune goutte de transpiration. Non, je dis,
c'est un phénomène, ça vaut le coup de suivre le patinage artistique.
Et en plus, il fait le salto, et maintenant, il le fait sur un pied. Donc, pas comme le mien, donc j'ai toujours le bon Ali. Donc, peut-être qu'il aura un autre salto, je ne sais pas. En tout cas, c'est super. Donc.
Merci beaucoup, Souria. Alors, merci beaucoup. La BD s'appelle Souria Bonali, Le Feu sur la Glace. C'est aux éditions Marabule. Et c'est par Super Grand, les Jeux Olympiques de Milan Cortina.
C'est une bonne idée. Une bonne idée,
merci beaucoup, Souria.
Merci.
C'était magnifique.
Super, merci.
Ben, n'hésitez pas à l'acheter, hein. Ah oui, à l'acheter, la Fnac, Amazon, ça,
c'est un bon. Et à très bientôt sur.
Et surtout les jeunes qui font du patinage, n'oubliez pas de dire, c'est grâce à la bonne idée.
Non, mais c'est un beau livre pour les jeunes, les moins jeunes, et après pour les fans, les collecteurs, c'est chouette.
Merci encore, Souria.
Tu reviens quand tu veux, Souria.
C'est gentil, merci.
Tu habites un peu loin, c'est vrai que c'est pas à côté, mais
bon. Non, mais je reviendrai.
Tu es la bienvenue.
Adrien et moi, merci. C'est l'heure du journal moyen sur RMC.
Le journal moyen, première édition, une histoire d'escalade qui donne des frissons, Vincent, un défi demain qui va se passer en direct dans le monde entier. Je vous donne tous les détails, ça donne des frissons. C'est tout de suite dans le journal moyen, première édition.
Allez, on revient tout de suite, on est dans le super Moscato Show.
RMC, jusqu'à 18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient au Mastic, il est 15h48, c'est le journal moyen d'Adrien Aiguet, première édition.
La première édition, l'actu, la culture, les médias. Un invité a fait craquer Estelle Denis en direct, on adore ça. Un défi sur Netflix qui fait polémique, un défi escalade, Vincent, qui donne des frissons. Et puis une belle mâchoire bloquée d'un politique. Oui, c'est un politique que peut-être que soutient Pierre Dorion d'ailleurs, il me semble. Vous écoutez RMC.
C'est un mec de droite.
C'est le maire de Nice. C'est le...
C'est le 2500 ancien grand champion de moto d'ailleurs.
Oui. C'est le 2500, deuxième journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
Un petit tour chez Estelle Denis, midi 15h, RMC, RMC Story. Tous les jours, elle a craqué hier. Le sujet, faut-il en finir avec le paiement par chèque ? Elle invite un phénomène, Vincent, qui s'appelle Guy Grand-Girard. Guy Grand-Girard, c'est le président de l'Association de défense des consommateurs de France. Le problème, c'est que Guy Grand-Girard, il est très bavard. Et il n'arrive pas à s'arrêter. Et en plateau, Estelle n'arrive plus à l'arrêter. Et on sent qu'il y a un moment de gêne à un moment. Parce qu'elle lui dit, tu sais, le fameux « Ah, mais non, merci, non, oui, non, non, oui, il continue, non, il continue, il continue. » C'est Guy Grand-Girard, il aime bien l'émission d'Estelle. Et d'un coup, ça c'est un phénomène, il va s'arrêter net, sans prévenir.
Net.
Estelle a craqué.
C'est le développement bancaire du pays à marche forcée entre 70 et 1970 et 1980, où on a imposé à quasiment tout le monde d'avoir un compte bancaire qui a fait l'explosion des chèques en fait.
Ah oui, c'est vrai que les chèques.
Merci beaucoup, Guy Grand-Girard, d'avoir été avec nous sur ces chèques.
Et on va aller regarder les messages sur le WhatsApp de l'émission, parce que ça vous a fait réagir très nombreux. Elle n'en pouvait plus, ils étaient tous en fou rire en plateau.
Trop chiant, à cause de la voix du mec.
Ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Il adorait parler de la voix. Il a refait toute l'histoire du chéquier depuis le début, c'était un peu long à un moment.
C'est vrai que les chéquiers, ça n'existe plus. Là.
Ça disparaît, mais les seniors y tiennent. Les personnes âgées veulent faire des chèques.
On a tous un chéquier encore dans un tiroir.
Moi, j'en ai pas.
Ah ouais? Oui, mais c'est pas de référence non plus.
C'est vrai que c'est Pierrot qui a raison, c'est Christelle qui fait sous. Un peu de politique.
Pauvre mec.
Un peu de politique. Avec un blocage, scène repérée par nos collègues de Quotidien, l'émission sur TMC. Ça se passe sur Public Sénat. Incroyable mâchoire paralysée, incroyable blocage. Le maire de Nice, Christian Estrosi, est resté bloqué. Ça arrive. Il est fatigué. On est en pleine campagne des municipales. Il parle de la situation internationale, Vincent. Blocage comme on entend rarement en politique.
Après avoir voulu s'emparer de l'exploitation du pétrole au Venezuela, après avoir voulu s'attaquer aux terres rares aujourd'hui
Erreur 404.
C'est pas d'un clôt.
Alors,
il faisait de la moto, lui,
avant. Vous voulez l'écouter? Alors, et après, le journaliste en plateau lui a donné le mot manquant, c'est tout simplement Ukraine.
Bon, ah oui, il
a
bah, Ukraine, ouais.
après avoir voulu s'emparer de l'exploitation du pétrole au Venezuela, après avoir voulu s'attaquer aux terres rares aujourd'hui
c'est incroyable.
Il démarre la vidéo.
Tu sais quoi, c'est quand tu parles que t'es pas concentré.
Ouais, ouais, là, il y a des gros trous noirs.
Des trous noirs. T'es pas là. Tu te le mets pas des questions toute la journée. Des fois, t'es pas là.
Après, il a pas fait l'étude. Il est motodidacte, lui.
C'est incroyable. Il est incroyable.
Sans transition.
Le terre rare, c'était en Ukraine. C'était pas très longtemps.
Demain.
Mais il y a des fois, quand ça vient pas, ça vient pas.
Polinja.
Quand ça vient pas, ça vient pas.
Sans transition, demain sur Netflix, Vincent sera diffusé un événement qui donne des frissons. Vous allez me dire si vous validez ou pas, si vous regardez ou pas, et si c'est finalement éthique et si on a le droit de faire ça. L'événement sera intitulé Skyscraper Live. Nous sommes à Taïwan. Un grimpeur professionnel, Alex Honnold, va tenter sans corde, sans équipement de protection. Il va tenter d'escalader la Taipei 101, la tour la plus haute de Taïwan, qui culmine à 508 mètres de haut. Il sera filmé en direct, c'est diffusé sur Netflix, donc ça se passe demain. Donc en gros, ce grand champion peut mourir en direct. Le français célèbre Alain Robert avait grimpé cette tour, mais il était assisté, il y avait une assurance. Lui, c'est le premier qui le fait sans aucune sécurité. Alors, il a des sas. Il est en contact permanent en radio avec son équipe. Il a des sas pour se sortir, s'échapper. S'il sent que ça va pas, ouais, il y a plusieurs sas où il peut s'échapper. Mais en gros, s'il glisse, c'est fini. 10 secondes de décalage avec le direct pour Netflix quand même. Pour éviter de voir un drame en direct, mais
bon, Netflix, c'est pour le voir, ça peut
aller.
Moi, je le vois faire un vol plané.
Et un vrai débat d'association qui dit
que c'est qui vont mettre de l'huile et du savon.
Non, mais c'est les jeux du cirque, c'est pas possible, non? Je sais pas.
Mais non, mais ça a toujours existé. Je vais te dire un truc, il y a un truc qui a été un événement qui a été filmé. Je crois pas me tromper, tu le regarderas, c'est Richette. Un mec qui a sauté avec l'un des premiers parachutes du premier étage de la Tour Eiffel. Donc il a sauté, il y avait la presse à l'époque, c'était, il y avait des journalistes, il y avait tout ça. Je sais pas si ça a été, non, ça n'a pas été filmé parce
du
que même
premier,
les premiers
sûr, films,
du premier étage, je crois, ou du deuxième, enfin, un des deux, il a filmé, le parachute, bien sûr, c'était les premiers, c'était en 1890, ou 2000, et du 1900, et le mec, il est tombé éclaté comme une merde.
Quand Alain Robert l'avait fait, le français, il avait mis 4 heures.
Éclaté comme une merde.
C'est bien raconté.
Et le mec, il avait pas d'amis.
Il dit qu'il avait fait un trou de 40 cm dans le béton.
Franz Richette,
ouais, c'est ça, ouais.
C'est là, le français Alain Robert qui avait gravi cette tour. C'est quelle année, ça peut avoir des crampes, hein.
1900. Après, c'est filmé, je crois.
Alors, c'est pas filmé, mais il y a beaucoup de mecs qui font des trucs comme ça, clandestins, à monter sur des.
Et
les flics, les
accompagnent. Ça, à la limite, clandestin, c'est en gros, c'est une démarche individuelle. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas légal.
Là, c'est fou.
Il y en a un qui est tombé il y a 2-3 ans.
Après, des mecs qui montent sans rien dire.
C'est filmé, en effet.
France Richette, il s'est éclaté.
Il est tombé. C'est horrible.
C'est quelle année, 1902, 1903?
Il est né en 78, donc son truc. Ben,
1912, ouais, c'est ça.
Ben, donc c'est
ça. Ben non, il est décédé là.
Ah, ben oui,
c'est environ, il est décédé. Il est pas mort 20 ans plus tard. Non, il est mort en 32. Il est mort en 1912. Je crois que c'est le premier étage. Premier étage.
C'est quand ça, ce truc-là?
Demain.
Mais le parachute, c'est très récent. Parce que c'est très récent. Les avions de la guerre de 14 n'avaient pas de parachute. Le mec était.
Comment il faisait?
Ah ben mort, hein. Ah ouais, bah. Mort en plus ces trucs en toile, donc.
Ouais, mais aujourd'hui les gens ils ont moins envie de mourir, nous a dit Denis.
Oui, oui, Denis le dit. Et là l'ambition.
Je vais quand même regarder, le deuxième
qui a mis ça, qui a dit je vais tenter. D'après moi, il a remis à plus tard.
Stephen, ne regarde pas, toi, t'as un rapport avec la mort incroyable. Ouais,
mais... secondes de décalage.
Non, mais tu vas
angoisser. Mais non, t'as qu'à se passer, si ça coupe, ça veut dire qu'il est mort.
Le mec qui dit ouais, il y a eu un accident, alors mais qu'est-ce qui s'est passé?
Il a glissé, ripé,
et puis bonsoir Clara.
Dans un instant, Marseille-Lens samedi soir. Lens est-il dans la position idéale? Vincent Moscato règle le problème sur RMC.
15h56, le Super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h,
le Super Moscato Show.